Second volet de notre série Bien aborder sa reconversion professionnelle. Je vous propose ici six façons de créer un environnement physique et mental serein et propice à la première phase d'un projet de réflexion, c'est-à-dire le temps de la réflexion. La pression, ça a du bon quand l'envie nous prend de nous mettre une boisson du sportif dans le gosier, histoire de le rafraîchir après l'effort. Inversement, la pression pendant l'effort est l'ennemi de la décontraction nécessaire à la fois à l'efficacité du geste et au plaisir qu'on y prend. Dans le cadre d'une reconversion, la pression de l'objectif, de l'enjeu, des injonctions plus ou moins conscientes sabote la réflexion et l'enferme dans un cadre étriqué où elle serait presque condamnée à tourner en rond, à ralentir, voire à s'interrompre. Évacuer la pression, c'est créer un environnement physique et mental nourrissant, propice à une réflexion libérée, décontractée, à la créativité. La pression de l'urgence, de l'immédiateté, de trouver, la peur de ne pas se tromper, etc. Il y a mille et une façons de se mettre la pression ou de subir de la pression. Et celle-ci est autant favorable à l'élaboration d'un projet de reconversion que le gel tardif à la production des abricots. Alors voyons voir ces façons d'évacuer la pression. La première, c'est de distinguer la réflexion de la reconversion. Beaucoup trop souvent, dans la tête des candidats à la reconversion, comme dans celle du commun des mortels d'ailleurs, et donc de l'entourage auquel vous pourrez être amené à en parler, un itinéraire de reconversion commence dès lors qu'on réfléchit à l'élaboration d'un projet, dès lors qu'on en parle. Et c'est inexact. Un désir de reconversion a deux étapes complètement distinctes et la seconde ne suit pas forcément la première. La première étape, c'est la réflexion autour du projet, qui inclut l'exploration, les expérimentations, l'élaboration, la possibilité de renoncer et de préférer l'option vitamine mentale et job crafting, c'est-à-dire j'adapte mon métier et ma situation professionnelle à moi-même et à mes besoins pour y prendre davantage de plaisir, dans le cas où, au fond, vous aimez bien votre job, mais pas tellement ses conditions d'exercice. La deuxième étape, c'est la réalisation du projet, c'est sa mise en œuvre concrète, qui commence par exemple à l'entrée en formation et qui comprend tout ce qui suit. Et ça, c'est une phase de reconversion. Alors, il est essentiel de distinguer les deux, car leur confusion peut générer un sentiment d'obligation ou l'impression d'une prise de risque qui n'aide pas la comprenette à respirer en liberté les airs iodés, d'ailleurs professionnels possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Dès lors que vous sortez une idée de son tiroir, que vous choisissez d'explorer cette envie de changer de métier qui s'installe, vous n'entrez pas en reconversion. Vous entrez en réflexion à cette possibilité, ce qui ne présente aucun risque, hormis éventuellement celui de tomber par hasard sur un projet pertinent et faisable. La décision, pardon, de vous lancer dans une reconversion viendra bien plus tard. Quand et si? Le quoi, pourquoi, comment de votre bifurcation professionnelle aura été posé clairement et vous donnera l'assurance de pouvoir la mener à bien et du coup une motivation sans limite. Pour l'instant, contentez-vous de ce que vous faites réellement, vous réfléchissez. Et ça, c'est déjà énorme. La deuxième façon d'évacuer la pression, c'est de se libérer des injonctions. Et des injonctions concernant la reconversion professionnelle, vous en trouverez à tous les coins de rue. Il faut s'y prendre comme ci, il faut s'y prendre comme ça, il faut faire comme ça et pas comme ci. Et surtout, faites un bilan de compétences et blablabla. En réalité, il n'y a pas deux façons de s'y prendre pour réfléchir à un projet de reconversion. Il y en a un par personne. Et inversement, il n'y a pas deux façons de subir les injonctions du prêt-à-penser du changement de métier. Il y en a mille. Et pendant que votre cafetière est occupée à se soumettre au code de la pensée normative, elle restreint son champ de vision et finit par tourner en rond, voire par tourner à vide. Or, les injonctions ne sont que ce qu'elles sont, c'est-à-dire les impératifs des craintifs qui ont besoin de sentiers battus et rebattus pour se rassurer à coups de vérité universelle. Soyez donc le capitaine de votre âme et le PDG de vos pensées. Laissez l'air et la lumière rentrer dans votre usine à cogitation. Pensez en grand, en technicolore, sans hésitation. Les tris naturels se feront au fur et à mesure de vos explorations. Le troisième moyen d'évacuer la pression, c'est d'avoir un plan B. Alors, dès qu'on parle de plan B, certains s'imaginent que c'est le reflet de l'impossible. Si j'ai besoin d'un plan B, c'est que je ne vais pas y arriver. C'est tout l'inverse. C'est un moyen simple de minimiser la pression qui entrave les cogitations. Le but n'est pas d'utiliser le plan B, le but il est d'avoir une solution parachute qui vous permet simplement de savoir que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours retomber sur vos pieds, que vous n'œuvrez pas sans filet, vous sautez pas dans le grand bain sans savoir nager. Ça rassure et ça permet de dégager une part de son temps de cerveau disponible pour réfléchir sereinement à son projet plutôt que de ruminer ses peurs, ses freins et ses procrastinations. Le quatrième moyen, c'est de s'autoriser à renoncer. Nous l'avons vu plus haut, la possibilité de renoncer fait ou devrait faire partie intégrante d'un parcours de réflexion sur la reconversion. Au cas où le désir de changer de métier ne s'avérerait pas être une si bonne idée que ça, ou bien une réelle volonté, mieux vaut avoir intégré dans son paysage mental l'autorisation du renoncement, qui est la sœur aînée du plan B. Beaucoup trop de candidats à un changement de métier s'engluent dans leur désir parce qu'ils en ont parlé autour d'eux, parce qu'ils se sont persuadés qu'ils n'avaient pas d'autre option, qu'avoir envie de se reconvertir signifie devoir se reconvertir. C'était le cas de mon client Abdel, qui, parce qu'il avait annoncé à son entourage son envie de changer de métier, s'est longtemps accroché à l'idée qu'il était obligé, faute de quoi il allait se montrer pas crédible, pas fiable. Se contraindre dans une voie juste par crainte des jugements des autres est un excellent moyen de générer des stratégies d'échec très efficaces, une procrastination tenace, un sentiment délétère de ne pas être en mesure d'y arriver, ce qui est bien normal hein, quand c'est pas ce qu'on veut. C'est un des meilleurs moyens de générer une pression qui fait partie des allées simples pour une reconversion ratée. Autorisez-vous à renoncer, peut-être que votre chemin est là. Le cinquième moyen d'évacuer la pression, c'est de choisir soigneusement à qui vous allez en parler de cette reconversion. L'entourage n'est pas toujours le soutien inconditionnel qu'on espère. Il a ses propres craintes et entraves qui peuvent même en faire l'inverse d'un allié. Aussi, en début de réflexion, choisissez soigneusement à qui vous allez en parler. Ne vous encombrez pas l'esprit avec 68 façons différentes d'espérer le convaincre. D'abord parce que, comme on dit chez les rosebif, on peut mener un cheval à la rivière, on ne peut pas l'obliger à boire. J'utilise cette expression parce que ça m'évite d'utiliser le terme d'âne concernant votre entourage, n'est-ce pas? Ensuite, parce que vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit du bien fondé de vos désirs. Ne vous fatiguez pas la carafe à construire l'argumentaire imparable qui va persuader les plus réticents. De l'intelligence de votre envie d'ailleurs professionnelle. Il réagira, cet entourage, de toute façon, en fonction de ses propres filtres. Dans un premier temps, je vous encourage à en parler vaguement, légèrement, ce qui vous permettra de prendre la température de chacun dans votre entourage et de faire un tri. Ceux à qui vous pouvez en parler sans embâge, ceux qui seront un soutien, et ceux à qui vous n'en parlez pas pour l'instant. Un projet précis et planifié plus tard sera bien plus rassurant et vous évitera des conversations boiseuses, pleines de jugements, pleines de craintes, pleines d'avertissements dont vous n'avez vraiment pas besoin pour l'instant. Concernant le conjoint est la seule personne à qui, évidemment, il est indispensable de parler de son projet et à qui on va en parler régulièrement parce qu'il est directement impacté. Seulement en même temps, on ne devrait pas avoir à convaincre un conjoint de la pertinence d'un désir de changer de métier. On peut en négocier avec lui, évidemment, les conditions et concilier ses besoins avec les nôtres, c'est fortement recommandé. Mais il me semble qu'un conjoint qui est totalement rétif à l'idée de votre conversion, c'est quand même sacrément questionnant sur la nature de la relation. Au final, si vous avez parlé par mégarde un peu trop, à des quidam de votre entourage qui se révèlent être de vrais casse-pieds et qui vous abreuvent de leurs avertissements, de leurs jugements, de leurs bons conseils, il est possible de minimiser leurs commentaires et l'impact de ceux-ci sans vous épuiser à convaincre. Et pour ça, je vous ai mis un lien juste après ce podcast. En bonus, je vous donne un sixième point pour minimiser la pression, qui est celui de l'environnement idéal. Nous avons tous des environnements qui sont plus favorables à la créativité ou à la réflexion que d'autres. Ces derniers étant davantage susceptibles de créer des tensions dans notre boîte à penser et du coup de l'entraver. Pour ma part, si je marche pas, si j'ai pas de contact avec la nature, j'ai les méninges qui me ballonnent tout de suite un préavis de grève avec une liste de revendications longue comme un dimanche de novembre, et elles me sortent leur pancarte, vous savez, une seule solution, la procrastination. J'ai aussi besoin d'alterner les lieux, de ne pas me sentir enfermée entre quatre murs, fussent-ils ceux de l'espace de coworking le plus beau, le plus fun, le plus décontracté. Pour tout vous dire, j'ai une liste longue comme le bras de conditions optimales et je navigue avec elle en fonction du besoin de l'instant. Alors, je suis prête à parier hein, un itinéraire fluide et décontracté contre une cocotte minute, que vous êtes plus souple et moins sourcilleux que moi, mais il n'en reste pas moins que vous avez le droit à vos environnements favorables autant que moi. Alors, pour les identifier, en termes d'horaire, de lieu, d'organisation, quels sont les environnements qui favorisent vos réflexions et votre créativité? Et en termes de support, est-ce que vous utilisez plutôt le papier, le crayon, le bloc-notes, le dictaphone, l'ordinateur, des dossiers, des mind maps, des notes linéaires? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Et pour tout ça, je vous propose d'expérimenter diverses façons de faire et de voir petit à petit lesquelles faciliteront et le plus votre réflexion. Et en attendant la troisième partie de notre dossier sur comment bien aborder votre reconversion, je vous souhaite bon vent et à bientôt.